Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message « Une trompette qui rend un son confus » prêché par notre précieux frère et prophète William Marion Branham le 14 janvier 1963. Merci beaucoup, frère Demos. C'est un grand privilège d'être ici ce soir dans cette assemblée chrétienne, dans ce pays de glace. Et j'ai appelé chez moi il y a quelques instants, il fait environ 20 degrés de plus qu'ici, tout là-bas dans le nord. J'ai dû apporter ça avec moi, je vais me dépêcher de partir et puis revenir en vitesse. Toutes les plantes gèlent. Qu'en penses-tu, Quichy? Certainement. Je suis si heureux d'avoir l'occasion de rencontrer ce brave pasteur ce soir et de vous voir tous. Je viens d'arriver il y a quelques instants. J'arrive de Tucson, où j'ai dû aller aujourd'hui. J'ai conduit la nuit dernière et je suis arrivé vers 2h30 du matin à Tucson. Et puis, je suis resté debout toute la journée là-bas et je suis parti quelques instants. Eh bien, je suis entré il y a environ 1h30. Je pense que quelque chose comme ça ici. Donc, je n'ai pas beaucoup dormi. Mais je vais essayer de ne pas dormir ici. Mais nous sommes heureux d'être ici. Ce petit garçon qui joue avec ses micros ici, je me suis assis là en arrière, sur le siège d'un de ses petits-enfants. Un petit garçon est venu, il m'a regardé très drôlement. J'ai dit, nous tous, les enfants, nous pouvons nous asseoir ensemble, n'est-ce pas? Mais j'aime vraiment ces petits-enfants tout de même. Et c'est vraiment agréable d'être ici ce soir et d'avoir ce bel auditoire, des gens qui se tiennent debout tout autour. Et j'ai confiance maintenant que Frère Williams vous a tout raconté et Frère Rose ici présent sur la convention à venir. Je suppose que vous êtes tous au courant de ça. Elle va se tenir au Ramada tout de suite après, la convention des hommes d'affaires. Et nous attendons à passer un moment glorieux là-bas. Frère Will Velmer Gardner, un merveilleux orateur très énergique, et d'autres ministres, Oral Roberts et plusieurs autres seront présents. Et nous attendons à passer un moment merveilleux dans le Seigneur. J'espère qu'un de ces jours, ils nous laisseront tenir un service de guérison à cet endroit. Oui, j'aimerais inviter Frère Oral et que nous soyons ensemble. Oui, monsieur, ne serait-ce pas très bien? Ce serait une véritable introduction pour ça, n'est-ce pas? Un service de guérison au Ramada, ce serait bien. Nous le ferons peut-être, vous savez. Le Seigneur pourrait pourvoir ça pour nous, d'avoir un service de guérison. Alors, nous faisons le tour là d'une église à l'autre pour essayer de répandre la bonne nouvelle, de nous associer les uns aux autres et d'avoir une communion fraternelle dans toutes les différentes églises. Voilà ce que nous croyons, que nous sommes un en Christ. Je parlais l'autre jour à un médecin. Je m'apprête à partir outre-mer et vous devez passer un examen médical. J'ai donc dû passer un examen. Il m'a mis sur une de ces ondes. Ne me demandez pas ce que c'est. Il a trouvé quelque chose d'étrange. Il est revenu, il n'arrivait pas à comprendre. Il a réuni un conseil de médecin. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre ça. Il a dit, je n'ai jamais vu ça avant. Eh bien, il m'a montré la photo de cela, comment il y a ordinairement le conscient et le subconscient et qu'ils sont très éloignés l'un de l'autre. Mais il a remarqué sur ma photo que les miens étaient tout près l'un de l'autre. Il a dit, vous êtes un étrange personnage. J'ai dit, je l'ai toujours su. Tout le monde le sait. Il a dit, on n'a encore jamais vu ça. Alors, il a commencé à m'en parler. J'ai dit, vous savez, je crois que le bon Dieu, quand il nous a créés, il nous a juste fait un peu différent. On ne se ressemble pas et parfois on n'agit même pas comme les autres. Mais c'est pour lui qu'il le fait. C'est sa propre façon de le faire. Nous entrons simplement dans la grande machine à modeler et on reste tranquille. Il va nous façonner de la façon qu'il veut que nous soyons. Et je sais qu'aucun d'entre vous ne voudrait être autre chose que ce que vous êtes. La seule chose qu'on peut tous désirer après avoir été sauvés et être devenus les enfants de Dieu, la seule chose que nous voulons, c'est juste une marche plus rapprochée chaque jour. C'est à ça que nous aspirons, cette grande communion. Comme c'est merveilleux. Pouvez-vous vous arrêter et penser à ce qu'on ferait si on n'avait pas ça? Que si ce grand espoir ne reposait pas en nous, qu'est-ce qu'on ferait? Je disais dans l'une des églises, puis je, d'abord à un endroit, puis à un autre, et dans tout le pays, je fais parfois une remarque. Je pense qu'il se pourrait que je la répète dans la même église. Mais j'allais sortir du bâtiment où j'avais été un peu dur à propos de ces gens qui aujourd'hui pratiquent cette nouvelle danse qu'ils ont, qu'ils appellent le twist ou quelque chose comme ça. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi le monde, les gens veulent se briser les jambes et agir comme ça. Et il y avait un garçon d'environ 26 ou 27 ans qui m'a rencontré à l'arrière et a dit un instant, Monsieur Branham. J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, vous savez, c'est juste que vous ne comprenez pas. Et j'espère ne jamais comprendre. Alors il a dit, vous voyez, il a dit, je peux comprendre votre point de vue. Il a dit, vous êtes un homme de 50 ans, mais si vous aviez mon âge, ce serait différent. J'ai dit, attends une minute. J'ai dit, je prêche l'Évangile quand j'avais 10 ans de moins que vous. Je crois toujours ce même Évangile. J'ai toujours quelque chose qui prend la place et donne plus de joie à servir le Seigneur que toutes les choses que le diable peut fabriquer n'importe où. Cela satisfait. Vous savez, David a dit une fois, « Comme la biche soupire après les courants d'eau, mon âme a soif de toi, ô Dieu. » Et si vous avez déjà vu l'un de ses petits quand il est blessé, peut-être que les chiens l'ont attrapé, qu'ils lui ont arraché un gros morceau de son flanc ou quelque chose comme ça, il saigne et le chien peut le traquer. Il n'est pas comme l'homme. Il peut traquer ce cerf, qu'il saigne ou non. Et donc, la seule façon, si ce cerf saigne, la seule façon pour lui de survivre est de parvenir là où il y a de l'eau. Et s'il peut arriver là où il y a de l'eau, il va boire de cette eau. Cela va arrêter le saignement et il va pouvoir s'enfuir. Il est assez débrouillard. Et maintenant, vous pouvez imaginer de voir l'un de ses petits blessés et saignant avec sa petite tête en l'air et ce sens aiguisé et qu'il va détecter où est l'eau avec son nez. Il doit absolument trouver l'eau ou il va périr. Là, c'est juste une question de vie ou de mort pour lui. Et chaque parcelle d'odorat qu'il a, il essaie, il languit et il doit en trouver. Alors, c'est ainsi que nous devrions avoir soif de Dieu, voyez? Comme la biche soupire après les courants d'eau, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Être caché avec lui quelque part, c'est le désir de mon cœur. Et j'ai confiance que c'est le désir de tous ceux qui sont ici ce soir. Et maintenant, à chaque soir, j'aime voir cela, les visages qu'on voit à un endroit ou les voit à un autre. J'aime ça, vous montrer votre fraternité et exprimer ce pourquoi nous sommes ici. Oh, j'aimerais bien voir un réveil à l'ancienne mode à Phoenix. Oh là là! Ce mot « Phoenix » m'a fait vibrer dès la première fois que je l'ai lu. Phoenix, Arizona. Oh là là, petit garçon, je me disais, si seulement je pouvais arriver à cet endroit, si seulement je pouvais y arriver, à Phoenix. Et maintenant, de le voir et qu'on est ici, nous le trouvons s'enfonçant dans la profondeur du péché, comme tous les autres endroits. Les touristes qui y viennent, et l'alcool, les festivités, l'immoralité, tout est à portée de main. Et pourtant, au milieu de tout ça, on retrouve des joyaux authentiques que Dieu a retirés de ce désert, qui brillent dans la couronne du peuple glorieux de Dieu. Et c'est pour ça que je suis ici ce soir, pour me joindre à vous, frères et sœurs, pour essayer de faire briller la lumière du Seigneur Jésus aux autres, afin qu'on les trouve, eux aussi, dans cette grande agitation. Et beaucoup d'entre eux sont encore à l'extérieur. Je suis satisfait de cela. Il en reste encore beaucoup à venir, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les y amener et vivre une vie qui reflète Christ. Maintenant, Juste avant de lire une petite partie de l'Écriture, je suis arrivé si tard que j'ai pris quelques notes en 5 minutes environ. Et l'impôt fédéral sur le revenu vient de m'envoyer des déclarations. Il fallait que j'y aille tout de suite et ça devait être tamponné par la poste. Je pense peut-être aujourd'hui encore. Alors, j'ai dû aller à la poste et quand je suis entré, Billy m'a dit, tu ferais mieux de te dépêcher. Et bon, voici, j'ai seulement eu encore et encore et encore par ces gens-là. Oh là là! Ils parlent de justice aux portes du palais de justice. Je me demande où cela se trouve. Oui, je n'ai jamais vu une chose pareille. Ils voulaient que je paie de l'impôt sur chaque chèque qui m'avait été donné depuis 50 ans, qui ont servi à payer les dettes de la campagne avec les frais de retard là-dessus. Vous voyez, 350 000 $. J'ai dit, tirez-moi dessus, c'est tout. Comment pourrais-je un jour payer ça? J'ai dit, c'est tout juste si j'ai 55 sous. J'ai dit, comment pourrais-je le faire? Et ils m'ont gardé au pied du mur pendant 5 ans. Alors, les gens qui déposaient, comme par exemple dans une campagne, et les gens, ils savent seulement que mon nom est William Branham, ils font simplement un chèque pour couvrir la dépense. Les ministres s'occupent de le faire, je n'ai jamais sollicité d'offrande de ma vie. Et alors, ils obtiennent, je reçois un salaire de mon église, 100 $ par semaine. Et cette offrande, mais tous ceux, vous voyez, qui participaient à l'offrande, le lendemain matin, celui qui est en charge du comité des finances, il venait, il disait, Frère Branham, tu dois signer ces chèques. Et bon, je les signais simplement, il les mettait dedans, et ainsi, ils ont vérifié tout ça, et pas un centime n'a jamais été dépensé pour moi-même. Mais quand je signais ce chèque, ils ont dit qu'ils étaient à moi. Les gens me le donnaient, et après, je le donnais à l'Église. Oh là là! Je me sentais vraiment mal au début, puis j'en suis venu à découvrir que chaque homme dans la Bible, je crois qu'il a occupé une fonction spirituelle pour Dieu, a eu affaire au gouvernement fédéraux. Allez vérifier, vous allez voir. C'est vrai. Moïse, Daniel, Jean-Baptiste, Jésus-Christ est mort par la main du gouvernement fédéral sous la peine capitale. Pierre, Jacques, Jean, le révélateur, tous ont souffert la persécution. Pourquoi? C'est le siège de Satan. Savez-vous ça? Savez-vous que Satan a pris Jésus, lui a montré tous les royaumes du monde, le monde en un rien de temps, et il a dit, ils sont à moi. J'en fais ce que je veux. Voyez? Et je les donnerai si tu te prosternes et m'adores. Alors, vous voyez à qui ils appartiennent? Nous n'avons pas à penser cela du nôtre, mais c'est le cas. Et il a dit, Jésus a dit, retire-toi, Satan. Il savait qu'il en deviendrait héritier dans le millénium. Il savait qu'il serait à lui. Quand, si ces pays étaient gouvernés par Dieu, le millénium serait là. Mais il y aura un temps. Ils ont les Nations unies et la Société des Nations et tout pour essayer d'instaurer la paix. Mais tant que Satan est à la tête de cela, de la politique, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se combattre aussi sûr que le monde. Mais il viendra un temps où toutes les armes seront empilées et les sonneries retentiront. Et le matin se lèvera éternel, lumineux et clair. Notre roi prendra son trône. Oh, il y aura des chants, il y aura des cris. Il y aura un seul drapeau, un peuple, une nation, parlant une seule langue céleste. Amen. Je languis pour ce temps-là, et je cours pour atteindre le but. Faisant confiance à Dieu, un jour, quand ce sera terminé, je pourrai dire, je vais l'entendre me dire, monte plus haut. Je suis ici à Phoenix ce soir, au nom du Seigneur. Je n'essaierai pas d'expliquer ce qui s'est passé. Beaucoup d'entre vous qui prennent les bandes, assurez-vous d'obtenir celle-là. Monsieur, quelle heure est-il? C'était juste avant que je quitte la maison. Une vision m'a envoyé ici. C'est, je ne sais pas, je ne suis pas un vendeur de bandes. Et je n'insiste pas sur ces choses. On les a et on a une franchise sur les bandes autour du monde entier, dans la jungle et partout. Ils ont un petit quelque chose qu'ils se mettent dans les oreilles et ils peuvent l'enregistrer sur la bande, se tenir là et le traduire directement dans leur langue. Et ça fait le tour du monde. Et mais j'en ai une, celle, monsieur, quelle heure est-il ou est-ce le temps, Seigneur, monsieur? Samedi soir, il y a 3 semaines à l'église, après avoir eu des visions toute ma vie, je n'avais jamais rien eu de tel auparavant de ma vie. Et je ne sais pas ce que c'est. Je suis simplement ici, mais il m'a envoyé ici. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis juste ici. Et je dois être honnête et sincère. C'est le seul moyen d'arriver quelque part avec Dieu, c'est d'être sincère. Parce que les hommes le sauront, Dieu le sait au départ, vous n'êtes pas si vous ne l'êtes ou pas. Et les hommes le sauront parce qu'une fois, il y avait un homme qui essayait de prophétiser et Dieu a dit, ou le vrai prophète lui a dit, rappelons-nous, il y a eu des prophètes avant nous. Un prophète n'est connu que lorsque sa prophétie s'accomplit. Donc, nous ferions mieux de savoir avec certitude que Dieu l'a dit avant d'en parler. Soyez honnête et sincère. Maintenant, inclinons la tête un instant pour prier. Et laissons de côté tous les soucis maintenant pour les prochaines minutes. Je me demande, dans ce charmant petit groupe de gens ici ce soir, je sais qu'il y a des joyaux assis ici que Jésus viendra chercher un jour, qui vont se réveiller et sortir de la poussière. Et peut-être que certains ne savent pas trop s'ils y seront ou pas. Il pourrait y avoir besoin d'autres choses. S'il y a un besoin dans votre vie ce soir, faites-le savoir à Dieu en levant simplement la main et disant, « Dieu, tu sais ce que je veux maintenant et bénis-moi. Je suis malade, j'ai besoin de guérison, je suis égaré, j'ai besoin de revenir en communion, je veux revenir, j'ai erré, je reviens, je veux que tu m'aides ce soir à revenir. » Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, comme nous approchons de ton trône par le moyen du sang, car Aaron entrait devant le propitiatoire, il prenait d'abord le sang dans sa main et il y allait. Et nous, par la foi ce soir, nous recevons le sang du Seigneur Jésus et marchons vers le trône de Dieu avec assurance, sachant que nous avons le droit de venir, non pas par notre propre justice, mais par la sienne. Le sang représente notre purification. Et je prie, Père Céleste, que tu exauces notre requête. D'abord, nous te demandons d'être miséricordieux envers nous, en nous pardonnant toutes nos transgressions, alors que nous confessons nos fautes et nos petits manquements, nos péchés secrets et nos péchés inconnus. Et nous confessons aussi, en tant que ministre, étant sacrificateur, les péchés des gens. Ensemble, Seigneur, nous prenons position, nous aimons les gens. Nous nous sentons comme Moïse quand il s'est jeté dans la brèche, retenant la colère de Dieu sur le peuple. Quelle représentation de la justice de Christ, quand Christ s'est jeté lui-même dans la brèche pour sauver le peuple. Et Père, nous, en tant que serviteurs, avec son esprit en nous, chaque chrétien ici ce soir se tient devant le pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux envers eux. Nous implorons pour les malades et ceux dans le besoin, pour ces mains précieuses, certaines sont vieilles, d'autres jeunes et d'autres d'âge moyen, qui lèvent la main. Tu sais tout cela, Seigneur. Nous prions pour que tu répondes selon la richesse de ta gloire. Qu'il y en ait beaucoup ce soir, Seigneur, qui sortiront d'ici, qui sont venus malades, puissent-ils repartir rétablis, guéris, que quelque chose se passe, qu'ils ne peuvent même pas expliquer, mais qu'ils savent qu'ils sont guéris. Que ceux qui sont égarés repartent justifiés, Seigneur, sachant qu'ils sont revenus et qu'ils ont retrouvé Christ là où ils l'avaient laissé. Ils partent et fassent des restitutions. Accorde, Seigneur, que ceux qui ne sont jamais venus trouvent cette précieuse indépendance d'être libres, sortis de la cage, non plus liés par les choses du monde et les soucis de cette vie, mais rendus libres en Christ. Accorde-leur, Père, bénis tout ce dont nous avons besoin maintenant, bénis ta parole et ton serviteur, et nous te louerons, nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Bon, si nous lisons une partie de l'Écriture, ou une Écriture comme sujet plutôt, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 8, nous lisons ceci. Dans 1 Corinthiens 14, 8, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Ce texte serait suffisant pour que nous puissions le prêcher durant les deux prochaines semaines sans jamais en effleurer les bords. Il y a quelque chose dans la parole qui est inspiré. Vous demeurez constamment sur ce seul texte. Vous pouvez le relier à la Bible entière. C'est exact. Un jour, un homme m'a demandé, il a dit, « Comment pouvez-vous prendre le même sujet? » J'ai dit, « Oh là là, vous tirez un contexte sur n'importe quoi de cela. » J'ai pris un petit trèfle à trois feuilles sur le sol et je le tenais dans les airs. L'homme est ici ce soir de Tucson et nous étions en Pasadena, en Californie. Et j'ai dit, « Je pourrais prendre ce trèfle à trois feuilles et prêcher 25 ans dessus. » Comment c'est une vie et qui est en elle? Comment les trois feuilles sont la Trinité en un? Et oh, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Et que dire d'une Écriture? C'est la parole de Dieu, elle est éternelle, elle n'a pas de fin, elle continue toujours, toujours, toujours. Elle est un refuge pour nous. Et maintenant, ce soir, je veux parler de ceci, d'une trompette qui rend un son confus. En y pensant il y a quelques instants, alors que je pensais à l'affaire de l'impôt sur le revenu, je pensais, il n'y a pratiquement rien aujourd'hui de certain. Tout est tellement incertain. Et tout ce qui est incertain, on ne peut pas y faire confiance. Tout ce qui est incertain, on ne peut pas y faire confiance. Restez-en loin si vous n'êtes pas certain. Si vous avez une entreprise, et en cela nous avons des hommes d'affaires présents, peut-être qu'il y en a beaucoup. Si vous exploitez une entreprise qui n'est pas certaine, vous n'y investirez pas grand-chose, car le dividende est incertain et vous n'y investiriez pas beaucoup. Ou si vous êtes un bon homme d'affaires avisé, vous attendrez et ferez une investigation si vous avez de l'argent à investir jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de certain, de fiable, sur lequel vous pouvez compter. Parce que vous ne voulez pas perdre le peu d'argent que vous avez épargné jusqu'à là. Parce qu'avec cela, vous devez gagner votre vie. À partir de la rémunération provenant des dividendes qui sont tirés de cet investissement, eh bien, il faut que vous obteniez quelque chose pour vivre. Et ce peu d'argent que vous avez économisé, ne le mettez pas dans votre poche pour le laisser là, car les voleurs vont le voler. Vous voyez, ne faites pas ça. Si vous l'avez investi là dans quelque chose, et puis vous voulez être sûr de la certitude de votre investissement, si vous ne l'êtes pas, alors ne l'investissez pas du tout. Aussi, les affaires sont certainement sur la sellette ce soir. Toutes les affaires, pratiquement dans le monde, sont en train d'être ébranlées parce que le monde est en train d'être ébranlé. Vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre. Maintenant, je vais économiser tant d'argent pour me construire une jolie petite maison quelque part. C'est plutôt chancelant. Je vais vous dire ça, parce que le gouvernement pourrait tout reprendre du jour au lendemain. Oh, les choses ont rendu notre démocratie tellement corrompue qu'elle est vraiment instable. Avant, nous avions une grande confiance dans notre démocratie, et ce qui, je pense, est la meilleure forme de gouvernement. Mais quand même, notre démocratie est chancelante. Parce que nous, cette nation, notre peuple, nous avons une constitution. Et cette constitution est notre absolu. Mais pourtant, en cela, notre constitution est chancelante. Parce qu'elle a déjà été brisée à maintes reprises. Le défunt M. Roosevelt en a fait tout un plat. Donc, vous voyez, ça peut être brisé. On ne peut pas y mettre beaucoup de confiance. La politique, oh là là, comme c'est chancelant. Les gens débattent et débattent et débattent le sujet de la politique. Et les voisins vont se quereller à ce sujet. Des gens qui étaient de bons amis un président va se lever ou quelqu'un d'autre pour se présenter comme chef et, en quelque chose et l'autre garde de l'autre côté de la clôture politique. Ils vont se disputer les uns les autres au point de se quereller en matière de politique. J'espère ne blesser personne, mais je pense que toute la chose est pourrie. Voyez? Oui, monsieur. Alors pourquoi vous en feriez-vous pour quelque chose qui n'est pas bon de toute façon? C'est vrai. C'est simplement terriblement mauvais. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, allez-vous voter à cette élection? J'ai dit, j'ai déjà voté. Il a dit, oh, dans cette élection? J'ai dit, j'ai voté pour Jésus. J'ai dit, je vais te dire, il y avait deux personnes qui votaient pour moi. J'ai dit, Dieu a voté pour moi et le diable a voté contre moi. Et j'ai voté pour Dieu. Et ainsi, j'ai gagné mon vote. Tout dépend pour qui vous votez, la façon dont vous allez vous en sortir. Alors, remarquez, tout récemment, pour vous montrer juste un petit point, et ensuite, on va le laisser. Lors de la dernière élection présidentielle, alors qu'il a été absolument prouvé à Chicago et dans différents endroits que les machines qu'ils utilisaient pour voter ont été installées par le Parti démocrate, que chaque fois que vous votiez pour M. Nixon, vous votiez pour M. Kennedy en même temps. Donc, vous n'aviez aucune chance. Et ils l'ont prouvé. Et vous avez entendu Monitor l'autre soir, quand ils ont fait un sondage dans tout le pays, depuis le Mississippi à l'Est. M. Nixon a remporté ce vote téléphonique à 4 contre 1. Comment un homme peut-il gagner? Si ça avait été M. Kennedy, ça aurait été pareil. Je ne prends pas plus parti pour l'un que pour l'autre. Mon parti est au ciel et je suis assis avec eux ici ce soir. Nous sommes assis dans les lieux célestes à parler de notre roi. Mais voyez, j'essaie de vous dire que ces choses de la terre sont chancelantes. On ne peut pas s'y fier, elles sont incertaines. Et tout ce qui est incertain, je préfère en rester loin. Je n'aime pas cette chose négative. Je n'aime pas être mêlé aux choses négatives. J'aime quand c'est certain et être du côté positif. Aujourd'hui, la vie familiale est devenue incertaine. Vous savez, j'ai lu l'autre jour dans un des journaux quelque part que le taux de divorce aux États-Unis est plus élevé que dans tout autre pays du monde. Et nous sommes censés être une nation religieuse. Oui, c'est possible, religieuse, d'accord, mais ce n'est pas la bonne sorte. Vous voyez? La religion n'est qu'une couverture. C'est dur de dire de quoi on se couvre. Adam a essayé de le faire avec des feuilles de figuier et ça n'a pas marché. C'était devenu terriblement incertain quand il a dû sortir pour rencontrer Dieu. Donc, la religion ne répond pas à tout. Mais pourriez-vous imaginer que notre taux de divorce plus élevé que celui de tous les autres pays, notre taux de divorce? Nous trouvons l'immoralité se propageant dans nos maisons. C'était stupéfiant de le constater par un grand pourcentage de gens, d'après l'étude de la nation. Et je crois que c'est dans l'Ohio qu'un sondage a été mené sur le christianisme. Et c'était alarmant de voir le pourcentage de gens qui n'allaient même pas à l'Église. Et puis, environ 80 % de ceux qui allaient à l'Église ne savaient pas pourquoi ils y allaient. Ils ne savent pas pourquoi ils y vont. Ils ne vont qu'aller à l'Église. Pourquoi y allez-vous? Eh bien, maman nous amenait quand on était petits et on continue d'y aller. Et puis, bon, un autre pourcentage d'entre eux ont dit qu'ils y allaient juste pour rencontrer leurs voisins et jaser un peu. Vous voyez? Eh bien, c'est alarmant. Pas étonnant que la vie familiale ait disparu. Voyez, toute vie familiale qui n'est pas stable, toute femme qui va épouser un homme et qui n'est pas certaine de cet homme ferait mieux de le laisser tranquille. Et tout homme qui va épouser une femme et n'est pas certain, vous feriez mieux de la laisser tranquille. Vous feriez mieux de prier sérieusement là-dessus jusqu'à ce que Dieu vous donne la réponse. Et alors, ce que Dieu unit, que l'homme ne la sépare pas. Mais nous devons d'abord prier sérieusement à ce sujet. Oui. Maintenant, Nous découvrons que nous avons essayé de convertir le monde par un programme d'éducation et nous en avons vraiment fait un gâchis, ça sûr et certain. Vous ne pouvez pas convertir le monde à Christ par l'éducation. L'éducation l'éloigne de Dieu plus qu'elle ne l'attire vers Dieu. Parce qu'il essaie de penser qu'il est plus intelligent et en connaît plus que les autres. Aussi bonne que soit l'éducation, Christ n'a jamais commissionné son Église d'éduquer le monde. Il n'aura jamais demandé de faire des séminaires. Il n'a jamais dit, « Oh, ils sont bien. » Il ne leur a jamais dit d'aller construire des hôpitaux. C'est très bien. Mais l'affaire de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile. Aller par tout le monde entier, prêcher l'Évangile à toute la création, vous voyez? Mais tout ce qui est différent de cela devient chancelant parce que c'est en dehors du programme de Dieu. La vie nationale est incertaine. Bien, le monde est incertain. Nous vivons à un endroit où le monde entier est en effondrement nerveux, tout à l'heure incertain. Chaque nation, tout le monde, l'une a peur de l'autre. Ils parlent de paix. Une fois, ils ont dit, quand nous combattrons à la Première Guerre mondiale, que tous nos garçons devront aller là-bas, ça terminera les guerres. Ils n'avaient même pas dégagé la fumée de l'artillerie dans l'air, qu'ils en préparaient une autre. Puis il y eut la Société des Nations qui allait contrôler le monde, et c'est tombé à l'eau. Maintenant, ils ont l'ONU, et c'est la même chose, c'est tombé à l'eau. Il n'y a rien à faire. Tout est incertain. La vie nationale, la vie politique, les machines à vote, oh là là, ils sont simplement, tout est chancelant, tout. Maintenant, je veux le voir de plus près, voyez. La vie de l'Église est bouleversée et incertaine. Oh, c'est de ça que Paul parlait, voyez. C'est ce qu'il voulait dire. Si la trompette rend un son confus, la vie de l'Église est chambardée. Les gens savent à peine quoi faire. Ils vont d'une église à l'autre, essayant de trouver ce qui est juste. De droite à gauche, essayant de trouver ce qui est juste. Où est la bonne doctrine? Et quelqu'un va se présenter, ils sont capables de l'expliquer, presque au point même où leur credo est juste. Et puis, la première chose que vous savez, on retrouve tellement de corruption là-dedans qu'ils essaient une autre église pour voir ce qu'est leur credo, leur doctrine. Oh! Tout cela, nous découvrons alors que nous nous sommes séparés par ces choses dans des centaines d'ordres différents d'églises. Bon, rien contre ça. C'est juste qu'ils peuvent faire les autres choses alors qu'ils font, qu'ils doivent en sortir quelque chose de bon quelque part. Mais voyez-vous, vous ne pouvez pas mettre votre confiance en disant « Je fais partie de l'Association des Églises méthodistes et je n'ai pas à m'en faire parce que j'en fais partie. Je fais partie de l'Association baptiste et je n'ai pas à m'en faire. Vous ne pouvez pas faire ça. » Vous ne pouvez même pas le faire quand vous dites que vous faites partie de l'Association des Églises pentecôtistes. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça, parce que ça n'est pas ça. Nous découvrons que lorsque notre première association pentecôtiste, le Conseil général, a été mis en ordre, ça n'a pas été long avant qu'ils commencent à s'en détacher, à rompre ici et là, et avoir des ébats et des doctrines. Et maintenant, regardez ça. C'est partout. Vous voyez? Cela montre que c'est incertain. Ceux qui ne font confiance qu'à l'organisation, c'est incertain. Maintenant, vous direz, Frère Branham, tu nous mets dans une situation délicate. Tu peins une image terriblement sombre. Et j'avais l'intention de le faire. Je voulais le faire. Je l'ai fait dans un but pour dire ceci. Y a-t-il quelque chose de certain? Oui. Il y a une chose qui est certaine. Oh, j'en suis si heureux qu'il y ait une chose en laquelle vous pouvez mettre votre confiance et être sûr qu'elle est juste. Oh, quand tout le reste sera parti, ceci sera toujours là. Si vous lisez Matthieu 24, 35, il a dit, « Les cieux de la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » Dieu a un fondement certain. Un vieil homme a dit une fois, un vieux noir du sud, il transportait une Bible, il ne savait pas lire. Il disait, « Pourquoi la trimbales-tu, Sam? » J'ai dit, « C'est la Sainte Bible. » Il a dit, « C'est écrit dessus. » Et il a dit, « Je la crois d'un couvert à l'autre et je le crois le couvert aussi. » Disait-il, « Parce que c'est écrit Sainte Bible dessus. » Et l'homme qui lui parlait a dit, « Tu ne crois pas tout ce qu'il y a dedans? » Il a dit, « Oui, monsieur, bien sûr que oui. » Il a répondu, « Bon, tu veux dire que tu ferais tout ce que dit la Bible? » Il a dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Si la Bible disait à Sam de sauter à travers ce mur de pierre, qu'est-ce que tu ferais? » Il a dit, « Je sauterais. » Il a dit, « Eh bien, comment vas-tu passer au travers du mur de pierre sans qu'il y ait un trou? » Il a dit, « Si la Bible disait à Sam de sauter, il y aurait un trou là quand Sam y arriverait. » Donc, c'est à peu près ça. Il y aurait un trou là. Il n'avait qu'à prendre position sur la parole de Dieu et Dieu fera le chemin pour le reste. Oh, ce grand fondement! Je crois qu'il a dit dans Luc, je crois que c'est là, que descendant de la montagne, il a dit aux disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Et l'un a dit Jérémie et les prophètes et ainsi de suite. Et il a dit, « Mais qui dites-vous que je suis? » C'est à ce moment-là que Pierre a fait cette déclaration remarquable, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prouveront point contre elle. Qu'est-ce alors? Sur la vérité révélée de la parole de Dieu. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité auprès de nous. Et il fut révélé à Pierre que c'était la parole de Dieu confirmée. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire, « Qui peut me condamner de péché? Qui peut m'accuser? Tout ce que la parole a écrit de moi, je l'ai accompli. » Dieu l'avait confirmé qu'il était la parole. Oh, c'est ça. Dieu s'est manifesté. La parole le dit, et puis Dieu le rend réel, l'accomplit, le montre. Il y a des années, quand il disait à l'Église, « Le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. C'est juste une émotion qui saisit les gens. » Mais ceux qui l'avaient reçu savaient que c'était la vérité. Ils savaient que Dieu était réel. Et cela a été prouvé jusqu'à aujourd'hui. Le mouvement pentecôtiste de Dieu à travers les nations en a amené plus en Christ que tous les autres. Notre visiteur du dimanche, il n'y a pas longtemps, le journal catholique disait, je crois que c'était il y a 2 ans ou l'année dernière, 1 an, que l'Église catholique n'a enregistré qu'un 500 000 de convertis, alors que les pentecôtistes en ont enregistré 1 500 000. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est une chose croissante. La parole de Dieu qui se répand. Comme nous devrions être reconnaissants, c'est au point que même maintenant, les épiscopaliens, les presbytériens, les luthériens et tout viennent en chercher. Si vous remarquez dans la réunion des hommes d'affaires, vous les entendez parler des différents groupes, les épiscopaliens, les luthériens, les presbytériens, eh bien, on entend rarement parler d'un pentecôtiste qui fait quelque chose de plus. C'est vrai, ce sont tous les autres. Pourquoi ça? Ils ont vu la faiblesse de leur credo et ils sont retournés à la parole. Là où vous trouvez un fondement, quelque chose qui ne peut pas bouger. On y trouve le Saint-Esprit vivant sa vie dans les êtres humains, se manifestant au monde. Et elle fait que les hommes ont soif de lui. Inébranlable, incontestable, La parole de Dieu s'est manifestée et s'est montrée, la parole elle-même étant vécue dans la vie humaine. Comme c'est merveilleux. Il n'y a rien d'incertain à ce sujet. Vous pouvez voir où Dieu a fait une promesse et ici, elle est rendue manifeste. Il y a des centaines d'années, les prophètes l'ont prononcée. Ici, nous la voyons s'accomplir. À travers les critiques, à travers les différences, à travers les credos, combien ils ont essayé d'écraser cette parole de Dieu, combien ils ont essayé d'y substituer l'éducation, ils ont essayé de substituer, de faire des dénominations, ils se sont trompés eux-mêmes. Et dans tout cela, la parole de Dieu est toujours aussi étincelante et brillante qu'elle l'a toujours été. Qu'est-ce que c'est? C'est cette chose qui est certaine. Dieu a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alors, c'est quelque chose de certain. Vous voulez vous ancrer cette parole dans votre cœur. David a dit qu'il l'a caché dans son cœur pour ne pas pécher. Il a écrit ses lois sur les poteaux de son lit et les a attachés à ses mains et partout, mettant toujours sa parole devant lui. C'est ce qu'il faut. Gardez votre pensée constamment. Dieu dit à Josué, « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Alors tu prospéreras. Alors tu auras du succès. » Et quand l'Église s'unira tout ensemble, loin de ses credos et sur la parole de Dieu, alors l'Église aura du succès. Ce sera la chose qui détruira le communisme. Qu'est-ce qui a amené le communisme? La chose même, vous pensez communiste? Quand ils répandent leur propagande et grandissent par bonbons, par millions et que les gens en ont peur, le communisme s'estompera et mourra. Et il le faut. Le communiste, ils peuvent faire ceci, ils pourraient faire cela, je crois que Dieu va s'en servir. Mais c'est vrai, tout comme il l'a fait avec Nebuchadnezzar. Il va arracher toute l'ivraie avec le communisme. Mais ça, non, tant pis pour ça. Mais regardez, mais la chose, le communisme aura une fin. Le communisme prendra fin. Mais la parole de Dieu n'a pas de fin, parce qu'elle n'a pas eu de commencement. Amen. Elle est éternelle avec Dieu. Et si vous êtes ancré et que la parole est ancrée en vous, vous êtes éternel avec la parole. Amen. Il faut que ça vienne à sa fin. Toutes ces choses sont incertaines. Peu importe la taille du pilier qu'ils construisent, il doit tomber. Tout ce qui n'est pas de contre cette parole ou contraire à elle devra céder. Elle devra céder la place parce que la parole vient triomphalement. Rien ne peut l'arrêter. Dieu l'a déjà dit. Quand il la prononce, les cieux et la terre passeront, mais elle ne faillira jamais. Cachez cette parole dans votre cœur. Comment prendre cette parole et la laisser grandir? Gardez-la dans votre pensée, toujours, parce qu'elle ne faillira jamais. La parole de Dieu ne faillira jamais, parce qu'il a dit qu'elle ne le ferait pas. Nous voulons donc nous en tenir à cela. Or, Paul a dit, dans les Écritures, comme on entraîne un soldat à un son. Maintenant, un soldat doit apprendre les sons de son, du clairon ou de la trompette. S'il ne sait pas si la trompette va sonner, soit pour charger ou pour battre en retraite, s'il ne fait pas la différence, quel genre d'armée confuse auriez-vous? L'ennemi triompherait certainement sur une bande de soldats qui ne sont pas mieux entraînés que ça. Amen. C'est le problème de nos églises aujourd'hui. Nous les formons avec des credos, en les différenciant l'une de l'autre. Nous devons être unis. Nous devons connaître la trompette. Alors, quelle est la trompette, dit-il? La trompette de l'Évangile, c'est elle. La parole du Dieu vivant est la trompette. Ne mélangez rien avec elle. On ne peut pas avoir quelqu'un qui joue de la harpe française et l'autre qui joue du clairon. Personne ne saura quoi faire. Cela amène la confusion. Et Paul parlait d'entraîner un homme au son. Et selon le son, il sait exactement ce qu'il faut faire, car le clairon reçoit les ordres du capitaine en chef. Et lorsqu'il sonne de la trompette, l'armée sait exactement où avancer, où se retirer, où tourner à droite ou à gauche, ou quoi faire, ou au son de la trompette. Maintenant, armée, guerre, ça a toujours été la guerre. Nous ne sommes pas joints à l'Église ou venus à l'Église pour venir à un pique-nique. Nous devons réaliser que nous arrivons sur un champ de bataille. Je ne viens pas pour qu'on me tape dans le dos et qu'on me dise, « Frère Branham, tu es une personne formidable. » Non, monsieur, je viens ici avec un bouclier. Je n'ai pas besoin de bouclier pour ça. Je viens avec un casque et l'armure. Je viens me battre pour chaque pouce de terrain. Dieu dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Donc, les pas signifiaient la possession. Et quand l'Église arrive à un endroit où elle fait des compromis avec les credos et des compromis avec la parole et des compromis avec le monde, je veux dire, alors elle perd du terrain. C'est en train de reculer. Ce dont nous avons besoin ce soir, ce sont des soldats qui vont posséder toutes les promesses divines de cette Bible que Dieu a promises à l'Église, toute l'armure de Dieu pour tenir bon. C'est ce qu'il nous faut, des soldats. Pas avoir un uniforme pour un défilé, c'est toujours différent. Quand un homme, n'importe quelle nation, nous avons des espions dans toutes les nations. On a des espions allemands ici. On a des espions anglais ici. On a des espions en Angleterre. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de savoir quel genre de matériel, quel genre de bombe l'autre a. Le FBI est à peu près partout. Ils surveillent pour voir. C'est comme ça qu'ils survivent. Ils regardent et voient quel genre de bombe l'autre a. Ensuite, ils viennent et en font une un peu mieux qu'eux. Ou font quelque chose pour le contrecarrer. Ils ne se font pas confiance dans les nations parce que cela montre que les nations tremblent. Eh bien, en l'espace d'une heure, l'Angleterre nous ferait sauter si nous croisions leur chemin, ou bien nous les ferions sauter. Prenez juste quelqu'un à la tête de la chose, là, qui prendra un petit verre ou deux de trop, ou succombera à quelque chose, et puis ce sera fini. Ici, il n'y a pas si longtemps, il disait un petit objet fabriqué au Japon pendant la guerre, il le brisait par terre et se promenait patriotique. Et maintenant, vous allez payer plus cher pour celui-ci que tout ce que vous achetez dans le pays. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que cela paie la vie des gars qui sont morts là-bas? Certainement pas. Qu'est-ce que c'est? Je me fiche de savoir à quel point vous combattez les choses matérielles, où vous allez, ça n'aura aucune importance. Ça va trembler. Mais il y a un combat dans lequel vous pouvez entrer et gagner du terrain qui ne pourra jamais vous être enlevé. C'est le son de l'Évangile, de la trompette, de la parole de Dieu. Et il a possédé les dons et les promesses qu'il donne à l'Église. Certainement. Maintenant, nous trouvons ce son de trompette. Aujourd'hui, toutes les nations essaient d'armer ces gars avec la meilleure défense qu'elles puissent avoir. Maintenant, je sais, parfois, ces armures ne sont pas faciles à trimballer. J'avais un frère, un rookie, il l'appelait rookie, qui vient ici et l'armée lui donnait un sac de 90 livres sur le dos et c'est à peu près le poids qu'il pesait. Il lui donne une pelle pour creuser un trou avec, un fusil et tout un tas de grenades à la main. Et oh, je n'ai jamais vu un aussi gros sac. Le pauvre petit pouvait à peine bouger. Ils l'ont amené sur la route pour une randonnée de 5 000. Ça le faisait presque mourir. Il m'a dit, « Pourquoi ces absurdités? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce vieux gros casque? » Maintenant, regardez, l'armée sait qu'il en aura besoin un jour. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une pelle ici sur l'autoroute en marchant? Tu ferais mieux de t'habituer à l'utiliser. Tu pourrais en avoir besoin. Le gouvernement n'émettra rien à moins que vous sachiez qu'ils savent que vous allez l'utiliser. Tu dois t'entraîner pour ça. Ils trouvent ce qu'il y a de mieux pour vous protéger parce qu'ils sont intéressés pour la nation. Ils veulent que tu sois fortifié du mieux que tu peux, loin des balles. Ça a toujours été comme ça. Tout a commencé dans le Jardin d'Éden. Eh bien, et Dieu entraîne son Église. Vous savez, nous devons toujours nous améliorer. Maintenant, les vieux avions que nous utilisions pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, pourquoi ces petits cogneurs dans les airs étaient complètement passés date quand ils ont installé les gros super-avions qu'ils avaient? Eh bien, ils n'étaient rien du tout. Et maintenant, ceux qu'ils viennent d'utiliser dans cette dernière guerre, ils sont obsolètes. Ils n'en ont plus besoin. Ils ont des jets. Et vous voyez, vous essayez toujours d'améliorer la chose pour la défense. Mais vous savez quoi? Dieu n'a pas à s'améliorer. Dieu a donné à ses enfants, ses soldats, la meilleure chose qui pouvait leur être donnée. Quand il les a donnés, qu'est-ce qu'il leur a donné? Il leur a donné sa parole au jardin d'Éden, et l'homme devait se fortifier derrière la parole de Dieu, et aucun démon ne peut l'avoir. Restez dans la parole! Maintenant, l'espion ennemi, Satan, a essayé de découvrir ce qu'il pouvait faire pour s'introduire dans cela. Il savait qu'il ne pouvait pas sortir et l'a bluffé. Donc, la seule chose qu'il pouvait faire était de la faire résonner. Et ce que Dieu utilise aujourd'hui pour fortifier son Église, c'est sa parole. Et Satan arrive avec le pouvoir de raisonnement. Satan savait que c'était la faille. C'était l'endroit que les gens briseraient le plus facilement. C'était le raisonnement. Vous dites maintenant, laissez-moi juste raisonner avec toi. Maintenant, est-ce nécessaire? Si Dieu a dit que c'était nécessaire, c'est nécessaire que nous allions à pleurer et bouhou et faire tout cela. Si Dieu a dit que le baptême du Saint-Esprit est nécessaire, je me fiche de comment cela est pesant et combien de choses du monde vous devez abandonner, vous allez devoir l'utiliser un de ces jours pour rester en vie. C'est le seul moyen de survivre. Maintenant, devrions-nous pratiquer la guérison divine quand nous avons les meilleurs médecins du monde? Dieu vous a donné la guérison divine parce qu'il sait que vous devez l'utiliser. Il vous a donné les dons de l'esprit. Et dès que Satan s'est approché d'Ève, il a commencé à la faire raisonner. Maintenant, certainement, Dieu ne ferait pas ça. Les gens disent aujourd'hui, l'enfer, ça n'existe pas. Beaucoup d'entre eux vous disent ça, vous voyez. Oh, Dieu ne brûlerait sûrement pas ses enfants. Certainement, il ne brûlerait pas ses enfants, mais le diable va le faire aussi. Que dites-vous? De qui êtes-vous l'enfant? C'est la chose suivante. L'enfer a été créé pour le diable et ses enfants, pas pour les enfants de Dieu. Aucun d'entre eux n'ira là-bas, c'est vrai. Cela dépend de qui vous êtes l'enfant. Or, Dieu a donné à Ève et à Adam sa parole. Et il ne l'a jamais changée. Il a toujours eu le chrétien ou le croyant. Sa défense est la parole. Les cieux et la terre passeront. Tous les credos passeront. Toutes les dénominations vont faillir. Toutes les nations vont couler. Mais la parole de Dieu va subsister éternellement. Il viendra un temps où l'étoile du matin ne brillera plus. Il viendra un temps où le soleil ne brillera pas. Et la lune ne brillera plus. Et le monde ne tournera plus dans son orbite. Mais la parole de Dieu restera toujours la même. Oui. C'est quelque chose qui est inébranlable. Quelque chose sur lequel on peut compter. C'est certain. Dieu dit quoi que ce soit, c'est certain que ça va arriver. S'il a dit dans le jardin d'Éden, comme un rédempteur, qu'il enverrait le Messie, c'est certain qu'il allait venir, bien qu'il ait entendu 4000 ans, mais il y est arrivé. Il devait venir parce que c'était une promesse de la parole de Dieu. Dieu a promis de le renvoyer de nouveau. Il va venir. Je me fiche du nombre d'infidèles et de sceptiques qui s'élèvent. Quoi qu'il fasse, combien le communisme se répand, Jésus-Christ va venir et va avoir une église lavée dans le sang et la prendre dans un voyage dans les cieux. Pourquoi? C'est sûr que ça va arriver. La parole de Dieu l'a dit. Si tu peux croire, tout est possible. C'est certain. Dieu l'a dit. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas être secoué. Dieu l'a dit. Si vous restez seulement avec cela maintenant, et ayez foi en elle, croyez-la. Ce n'est pas un son confus. Dieu ne peut pas donner un son confus. Les credos peuvent donner un son confus. Les dénominations peuvent prêcher un son confus. Mais Dieu ne peut pas prononcer un son confus. Et cette parole est Dieu. Et il n'y a pas d'incertitude à ce sujet. C'est tout à fait certain. Maintenant, la grande Église est blindée par la parole. Maintenant, quand Jésus est venu, a-t-il utilisé la même armure? Il l'a certainement fait. Lorsque Satan est venu à lui, de toutes ses forces, et qu'il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, fais certaines choses. » Il a dit, « Il est écrit. » Il revient tout droit à la parole. Satan l'a éprouvé un peu plus haut. Mais Jésus, de retour avec la parole, il est écrit. Il est resté là sur cette parole pour nous montrer l'exemple. comme il l'a dit dans 1 Corinthiens, d'abord, Saint Jean 14, 13. Je vous ai donné un exemple. Et c'est un exemple que nous devrions vigoureusement, que nous devrions parfaitement mettre notre confiance dans la parole de Dieu, que tout le reste soit reconnu pour mensonge. C'est une chose certaine, Dieu a fait la promesse, Dieu va tenir sa promesse. Ils disent, comment cela peut-il arriver? Comment peut-il réunir un groupe de personnes avec la grâce de l'enlèvement pour monter? Je ne sais pas comment il va faire, ce ne sont pas mes affaires, je lui demande comment il le fait, c'est mon affaire d'être prêt pour cela. Il l'a promis, cela va se produire. Il a fortifié son Église par la parole. Et la première chose a été le raisonnement. Maintenant, ils disent, n'est-ce pas raisonnable si j'appartiens à cette Église? N'est-ce pas aussi bien que cette Église? Il n'y a qu'une seule Église à laquelle vous pouvez appartenir. Vous n'allez jamais y adhérer. Vous pourriez vous joindre à la loge méthodiste, à une loge presbytérienne, à la loge baptiste, à la loge pentecôtiste. Mais vous êtes né dans l'Église de Jésus-Christ, alors voilà l'Église. Ce sont des loges où les gens se rassemblent comme des corbeaux qui se posent sur cette branche et des colombes sur cette branche, et ainsi de suite. C'est la fraternité que vous avez ensemble quand vous partagez le même régime alimentaire. Mais quand il s'agit de l'Église de Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule voie. C'est la naissance. La naissance, c'est comme une personne, comme je l'ai dit à maintes reprises, comme un merle perché sur une branche qui essaie de mettre des plumes de pain dans ses ailes et de dire, tu vois, je suis un pain qui se pavane. Voyez, il a mis les plumes lui-même. S'il était un pain authentique, sa nature lui conférerait ce genre de plumes. Si l'Église du Dieu vivant est l'Église du Dieu vivant, elle produira la parole du Dieu vivant. Il n'a pas besoin d'ajouter des plumes de pain nulle part. Et chaque plume là-dedans sera unie à un pain. Vous pouvez croire cela. Et chaque plume qui est unie à l'Église de Dieu sera la parole de Dieu. Il n'injectera jamais rien d'autre que la parole. Amen. Car la nature de l'Esprit ne produit que la parole. Amen. Je commence à me sentir religieux, c'est vrai. Ce n'est pas ce que vous essayez de faire. Ce n'est pas ce que vous fabriquez. Vous ne pouvez pas fabriquer vous ne pouvez pas fabriquer le salut. Vous ne pouvez pas fabriquer les dons. Vous devez porter les dons, certainement. Vous voyez? Le mouton n'en fabrique pas. Il ne fabrique pas de la laine. Il y a de la laine parce que c'est un mouton. Il ne fait que porter la laine. Le cerisier ne fabrique pas de cerises. Il ne fait que porter des cerises parce que sa vie est comme ça. Et l'Église du Dieu vivant n'injecte pas ceci pour essayer de se faire passer pour quelque chose. Ils sont déjà ce qu'ils sont par la grâce de Dieu, et la parole de Dieu est unie à eux, et ils sont unis à la parole. Et les œuvres qui ont été produites dans celui qui est parfait, Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, se produiront par tout croyant né de nouveau. Il l'a dit. Amen. Par rien d'autre. Maintenant, c'est quelque chose de certain. Or, ce serait un peu déroutant pour un homme s'il n'avait jamais su le véritable son de la trompette. Maintenant, l'homme qui n'a jamais été formé à la trompette et qui ne l'a jamais entendu pourrait être un peu confus quand il entend quelque chose de différent de ce qu'il a entendu. Il a toujours entendu dire « adhérez à l'Église, apportez votre lettre par ici et par ici, c'est peut-être très bien, c'est tout ce qu'il sait. » Mais quand vous parlez de revenir à propos du baptême du Saint-Esprit, parlant de la puissance de Dieu et des choses qu'il fait, et de comment cela fait que les femmes et les hommes, tous les deux, se purifient d'une vie de péché, de comment cela fait marcher pieusement avec honnêteté, et des choses que cela fait, qui produisent le baptême, le parler en langue, la guérison des malades, qui chasse les démons, qui prophétise, les dons, oh, les visions, tout ce qu'il y a dans l'Église. Alléluia! C'est vrai. Quand ça sort, c'est un peu troublant pour ceux qui n'ont jamais entendu ce genre de trompette. Eh bien, vous dites, mon Église n'enseigne pas cela, alors ce ne sonne pas la trompette de l'Évangile. Gloire! C'est vrai! Mais pour ces soldats entraînés, alléluia, quand ils entendent ce son de trompette, ils savent comment se tenir en ordre. En avant, soldats chrétiens, gloire! Oh, c'est certain! Comment savez-vous que c'est certain? C'est conforme à la parole. Eh bien, vous dites, notre Église n'enseigne pas ça, mais c'est le son de la trompette. Je ne veux pas être formé par un credo d'Église parce qu'il va trembler et tomber. Mais si vous êtes formé à la parole, les cieux et la terre passeront et cette parole ne passera jamais. Tout credo, tout le reste va tomber, mais cette parole ne faillira jamais. Amen. Ça, c'est le son. C'est le son que je veux entendre. Oui, monsieur. Oh, vous dites, comment puis-je le savoir? Jésus a dit, mes brebis entendent mon son. Ils connaissent ma trompette. Il a dit dans Saint Jean, chapitre 14 et verset 12, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Maintenant, c'est ce qu'il a dit. Si un homme dit, eh bien, Hébreux 13, 8 dit Jésus-Christ à la même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, ils disent d'une certaine façon. Maintenant, un vrai bébé va dire, oh, quelque chose a grincé là-dedans. Ça ne sonnait pas juste. Oh, ça devait être un corps d'harmonie. Ce n'était pas une trompette. Parce que la Bible ne donne aucun son confus. Elle dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Pas vous allez peut-être, vous allez. Tout le monde. Jusqu'à quand? À vos enfants et aux enfants de vos enfants et à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il va sonner de la trompette à chaque race et à chaque génération et ils vont entendre sa voix. Ils le croiront, ceux qui sont ordonnés à la vie. Amen. Ils le croiront parce qu'ils savent que c'est la trompette de l'Évangile qui sonne. Ce n'est pas confus. Tous les soldats savent comment se tenir. Oh, vous avez vu Pierre et Jean et Jacques et l'Église primitive qui allaient de l'avant dans cette direction parce que la trompette de Jésus avait dit, « Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile. » Marc 16, « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. » Nous voyons Pierre, Jacques, Jean, le reste d'entre eux s'aligner, marcher avec cela. Et nous prenons une autre direction qui nous éloigne de cela. L'un qui avance et l'autre qui recule. L'un d'eux qui dit, « Eh bien, c'était pour quelqu'un d'autre. Ce son, c'était pour quelqu'un d'autre. » Oh non, ça ne peut pas être ça. Toute l'armée chrétienne entend la trompette. Dieu a dit que c'était la trompette. Il ne peut pas la changer. C'est le son avec lequel il a dit qu'il sonnerait. À ceci, tous connaîtront et l'Église dévie. Certains d'entre eux ne croient pas à sa venue littérale. La Bible a dit qu'il viendra, alors nous attendons sa venue. S'il n'est pas là ce soir, nous allons l'attendre demain matin. S'il n'est pas là demain matin, nous l'attendrons demain soir. Et nous continuerons de l'attendre. Si nous endormons, nous ne sommes pas évanouis en vain. Car la trompette de Dieu sonnera, la dernière trompette, et les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs et y demeurer pour toujours. Ça, c'est le son de la trompette. Que je vive ou que je sois parti, ça ne change à rien. J'entendrai le son. Je ressusciterai. Gloire à Dieu, ressusciterai. Oh oui. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Il était la parole manifestée. C'est comme ça que ses brebis le connaissent. Maintenant, regardez les pharisiens et les autres en ce jour-là. Oh, disent-ils, cet homme est Belzébul. Quand il a dit à la femme au puits ou à propos de ses péchés, les maris qu'elle avait eus, quand il a dit à Nathanaël où il était, sous l'arbre là, avec Philippe là, appelé sous le figuier en prière, eh bien, les docteurs de ce jour-là ont dit, cet homme est Belzébul, c'est un démon, c'est un diseur de bonne aventure. Mais il n'en était pas de même pour Pierre, Jacques et Jean, les autres. Ils le savaient. Pourquoi? Ils savaient que Dieu avait dit que lorsque le Messie viendrait, sous la voix inspirée de Moïse, il sera un prophète. Et quand ils ont vu que ces choses qu'il avait dites se manifestaient, il était devenu parfait, ils savaient que c'était de la nourriture pour les brebis. Ils savaient que c'était la trompette. Ils ont commencé à suivre cela. Mes brebis la connaissent parce qu'elles ont vu la parole de Dieu manifestée. Or, aujourd'hui, les gens ne croient pas que le baptême du Saint-Esprit existe. Passez ici ou quelque part, ils ont le Saint-Esprit, ils voient la promesse de Dieu s'accomplir. Exactement pourquoi? Mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent le son de cette trompette parce que c'est la Bible. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours Hébreux 13, 8, exactement. Je me fiche maintenant, peu importe combien de cornes d'église sonnent. Nous avons beaucoup de klaxons d'église, vous savez, qui klaxonnent pour n'importe quoi, disant, « Oh, les jours des miracles sont passés, la guérison divine, ça n'existe pas. » Oh, les véritables brebis n'écoutent pas ça, mais ils écoutent cette trompette, ce positif. Cette corne d'église pourrait donner n'importe quel son. Vous pourriez regarder ce qu'il y a aujourd'hui, les cornes d'église. L'un coup par ici, l'un coup par là. Et le diable est en retrait. Il dit, ah, ils se battent les uns contre les autres, c'est tout. Je n'ai même pas besoin de bouger ma main. Mes frères, laissez-les prendre les armes une fois. Revenir à l'ordre général. Oh là là. Alors, vous allez voir un avant-soldat chrétien. C'est vrai, pas en écoutant des cornes, mais en écoutant la trompette. Arrêtons-nous juste une minute et revenons en arrière et regardons-en quelques-uns maintenant. Nous sommes sur le point de terminer parce que je ne veux pas vous garder ici si longtemps, mais retournons voir ceux qui ont entendu ce son. Prenons, ils en étaient certains. Je vous ai montré tout, que tout le reste est confus. Prenons juste un vieux personnage un instant. Prenons le prophète Job. Cet homme est passé par un test, mais il savait que Dieu exigeait un holocauste. C'est ce que Dieu exigeait, et c'est tout ce qu'il exigeait. Et peu importe l'ampleur du désastre qui a frappé sa maison, Dieu ne le fait pas toujours. Quand vous voyez quelque chose qui va mal pour un homme, ça ne veut pas dire qu'il est châtié par Dieu. Ce n'est peut-être pas parce qu'il est en dehors de la volonté de Dieu. Il sait au fond de son cœur s'il écoute la trompette ou non. Dieu a exigé cet holocauste, et Job s'y est tenu fermement. Voilà tout. Ils ont dit, « Job, tu pêches en secret, tu fais quelque chose de mal. » Mais il connaissait mieux. Il est resté là parce qu'il avait entendu le son de la trompette. Et il est resté là avec elle. Et finalement, jusqu'à la dernière minute, quand il était, le diable s'était déchaîné contre lui, il avait pris sa famille, il avait pris ses enfants, ses chameaux et tous ses biens, il avait ruiné sa santé. Il s'est mis sur le tas de cendres. Il semblait que tout était perdu. Mais il disait encore, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, dans ma chair, je verrai Dieu. » Rien de confus concernant cela, n'est-ce pas? Pas je crois qu'il est vivant. Il a dit, je sais qu'il vit. Et il se tiendra au dernier jour sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, dans ma chair, je verrai Dieu. Oh là là! C'est arrivé. Il en était très certain. Abraham, un jour, marchant dans les champs, il a entendu dire, Abraham, il a rencontré Abraham avant la parole écrite, et il a dit, Abraham, je vais te donner un fils par ta femme, Sarah. Elle avait 65 ans à l'époque et Abraham avait 75 ans. Et ils se sont préparés pour cela. Ils n'avaient pas honte de témoigner. Ils savaient qu'il allait avoir le fils. Et la Bible dit qu'il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu, mais il était pleinement persuadé. Amen. Entièrement persuadé. Cela signifie qu'il a atteint l'ultime. Amen. C'est ça. L'ultime est le bout du chemin. C'est la dernière chose. C'est tout. Il a dit, « Je suis pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, Dieu peut le faire. » Êtes-vous ce soir pleinement persuadé que ceci est le Saint-Esprit? Êtes-vous pleinement persuadé que ceci est le chemin? Êtes-vous pleinement persuadé qu'il est un guérisseur? Êtes-vous pleinement persuadé qu'il va revenir? Êtes-vous pleinement persuadé qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Amen. Pleinement persuadé. Oui. Continuons avec un autre. Élie, là-haut sur la montagne, il avait eu une prise de bec avec Jézabel et son visage fardé. Il commençait à en avoir assez. À propos de toutes les femmes qui ont suivi le modèle de la première dame, peut-être des coupes de cheveux comme une tête d'eau et tout ce qu'elles avaient à l'époque, il s'était tellement donné de mal au point que ça l'a commencé à le décourager. Directement, Dieu lui a dit, « Viens ici. » C'est, il pleut à peu près tous les deux ou trois jours par semaine par ici. Mais tu vas aller devant Achab et tu vas lui dire, « Ainsi dit le Seigneur, la rosée ne tombera pas du ciel tant que je ne l'aurai pas réclamée. » Oh là là, il n'a pas dit maintenant, Achab, peut-être que cela pourrait se passer ici. Oh non. Il était pleinement persuadé. Rien de confus. La rosée ne tombera pas. Les pluies ne viendront pas avant que je les appelle. Amen. Gloire! Oh, pourquoi? Il a entendu la trompette. C'était certain. Il connaissait son Dieu. Il connaissait quelque chose. Quand Dieu a prononcé cette parole, tous les cieux et la terre passeront avant que cela arrive. Il faudrait que ça arrive. Il était assurément persuadé. Maintenant, il a dit, « Élie, je veux que tu montes là-haut dans le lieu le plus sec du pays et que tu ailles sur la montagne, là où il n'y a pas de source, mais j'en ai un là-haut pour toi. » Il était pleinement persuadé. Il est monté sur la montagne, il s'est assis près du torrent de Kérit. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire là-haut ici? J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Vois, comment ces corbeaux, maintenant, attendez une minute, Seigneur. Non, la trompette avait sonné. C'était suffisant. Comment cela va-t-il arriver? Je ne sais pas. Ça m'est égal, voyez. Ce n'est pas à moi de m'inquiéter de cela. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Il a dit qu'il avait ordonné aux corbeaux. Eh bien, Seigneur, pourrais-tu bien, s'il te plaît, explique-le-moi. Dis-moi où ils sont, quelle école ces corbeaux sont allés pour apprendre à parler hébreu. Quel genre, est-ce qu'ils cuisinent sur des cuisinières à gaz? Ou ont-ils un feu à bois? Ou comment font-ils? Et où vont-ils aller? Quel genre d'animal vont-ils tuer? Ce ne sont que des petits oiseaux. Comment vont-ils tuer un bœuf pour moi, pour m'apporter un sandwich au bœuf? Voyez, cela n'a pas été remis en question. Dieu, la trompette de Dieu, sa voix a sonné et a dit, « Je l'ai fait! » Pas « Élie, je vais peut-être le faire. » Je l'ai fait. Je vais le faire. Je l'ai déjà fait. Amen. C'est notre Dieu ce soir. Pas « Il va le faire. » Il l'a déjà fait. Amen. Il l'a déjà fait. Amen. Pas il va peut-être, va probablement, il l'a déjà fait. J'ai ordonné au corbeau. Il a remis son esprit à tous les hommes. Il a remis ses bénédictions. Il est monté au ciel et a donné des dons aux hommes. Quelqu'un va l'avoir, quelqu'un va le rejeter. Ce ne sont pas de mes affaires, comment ça arrive. C'est simplement que ça arrive. Dieu a dit qu'il en serait ainsi, il en est ainsi. Pierre a dit au jour de la Pentecôte, « Repentez-vous chacun de vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Comment cela va-t-il arriver? Je ne sais pas. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, vous ne pouvez pas le renverser en l'expliquant. La trompette a déjà sonné, je la crois. J'y ai obéi, je l'ai reçu. Amen. Maintenant, essayez de m'en dissuader une fois. Amen. Oh, je ne suis pas parfait, non? Comme cette nuit-là, la vieille sœur de couleur a dit, ancien, puis-je donner un témoignage? Oui, madame. Elle a dit, je veux dire une chose. Elle a dit, je ne suis plus pas ce que je veux être. Et elle a dit, je ne suis pas ce que je devrais être. Mais il y a une chose que je sais, je ne suis plus ce que j'étais. Ainsi, c'est ce que nous pensons maintenant. Je ne suis plus ce que j'étais parce que je suis sauvé ce soir par la grâce de Dieu et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit sur la base de la commission. Cela a été versé là-bas le jour de la Pentecôte. La promesse a été donnée. Je l'ai cru. Rien de confus. J'ai entendu le son, je lui ai obéi. Je suis certain que c'est ce que c'est. Certainement. Je le sais, certainement. Siméon, un vieux sage d'environ 80 ans, des centaines d'années depuis même qu'un prophète était sur la terre, mais allait ça et là avec une grande réputation. Le Saint-Esprit lui a parlé un jour. Il a dit, « Siméon, tu sais que tu ne mourras pas avant d'avoir vu le salut du Seigneur. » Gloire! Peut-être le souverain sacrificateur s'est frotté la barbe quelquefois. Il a dit, « Siméon, tu devrais peigner ta barbe de l'autre côté. » Il a dit, « Ça ne change rien. » Comment sais-tu que tu as raison? Le Saint-Esprit me l'a dit. Je ne mourrai pas. Eh bien, Siméon, pourquoi tu es prêt à mourir maintenant? Oh, je me fiche de ce que vous dites. Mais le Dieu m'a dit que je ne verrai pas la mort avant d'avoir vu son salut. Rien d'est certain. Je ne mourrai pas. Je ne peux pas voir la mort avant de l'avoir vu. Amen. C'est ça. Comment vas-tu faire, Siméon? Je ne sais pas. Ce n'est pas mes affaires. Où est-il, Siméon? Je ne sais pas. Comment sais-tu que tu vas l'avoir? Dieu l'a dit. C'est ça. C'est la parole. Je ne verrai pas la mort avant de l'avoir vue. Oh là là. Oh, pauvre vieil homme. Bien sûr, il a perdu la tête, tu sais. Alors, laisse-le tranquille. Mais il l'a vu de toute façon. Oui, monsieur. Dieu pourvoit d'un moyen pour les gens qui prendront sa parole. Jésus, lorsqu'il était ici sur terre, il se tenait là à la tombe de Lazare, ou avant cela, lorsqu'il était en discussion avec le peuple pour parler de la manière dont il avait vu Abraham, alors qu'il n'avait pas 50 ans et qu'il disait avoir vu Abraham. Vous avez remarqué à quel point il était certain? Il a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Je suis. Pas « j'étais » ou « je serai », mais « je suis ». Je suis certain. Et alors, il a dit à la tombe de Lazare, avant d'y aller, il a dit à Marthe, il a dit, « Je suis la résurrection, la vie. » Pas « je devrais » ou « je serai », mais « je suis ». Amen. Mon frère, si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Mais même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il a dit, ton frère ressuscitera. Oh, il ressuscitera dans les derniers jours à la résurrection générale. C'est un bon garçon. Oui, je crois qu'il va ressusciter. Mais Jésus l'a corrigé un peu, s'est relevé, il a dit, « Mais je suis la résurrection et la vie. Pas je le serai, je devrais l'être, ou ainsi de suite. Je suis. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien qui vacille, qui tremble là-dedans. Rien de confus, c'était certain. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Maintenant, mais peut-être pas, sans doute pas, ils ne le feront pas. Rien de confus là-dedans, ils ne mourront pas. Celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Il ne devrait pas venir en jugement. Ils ne viendront pas en jugement. Amen. Il a passé mon jugement. Ils n'ont rien à faire là. Amen. C'est ça, passer de la mort à la vie. Oh. Mais elle a dit qu'elle y croyait. Or, Jésus n'a jamais dit, « Eh bien, vous savez, étant donné que vous croyez cela, que vous savez que je suis la parole et que je suis celui qui devait venir, vous avez confessé cela, vous le croyez, je vais vous dire ce qu'on pourrait faire. Allons rassembler les anciens et allons voir si on peut faire quelque chose à ce sujet. » Non. Il a dit, « Je vais pas. » Allons voir si je peux le ressusciter. Je vais le ressusciter. Amen. Pas je vais essayer, je vais. Rien d'incertain. Ce n'était pas un son confus quand il a dit, je le ferai, je le ferai. Et celui-là même qui a dit, je le ferai, vous a fait une promesse. Alléluia. Oh là là. Amen. Je vais aller le réveiller. Il a dit encore, détruisez ce temple. Et je verrai ce que je peux faire concernant cela. Vous détruisez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. Rien de confus. Maintenant, je vais essayer. Vous pourriez tous rester là autour et voir si je peux le faire ou pas. Oh non, je vais le relever. Rien de confus. Je vais le relever. Vous le détruisez et je le relèverai. Oh là là. Pourquoi? Il savait qu'il était cette personne dans les Écritures dont David parlait. Je n'abandonnerai pas son âme en enfer et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et il savait qu'il était inclus dans cette promesse biblique. Alors, il était certain. Maintenant, ne pouvons-nous pas être aussi certains? Nous le prenons par exemple pour d'autres choses. Tant que la parole de Dieu l'a dit, nous ne pouvons pas être aussi certains au sujet de la parole qu'il était à son sujet. Je suis la résurrection et la vie. Je vais le ressusciter. Amen. Pourquoi? Il savait que la parole en parlait, il était sûr qu'il allait s'avancer. Et si je suis cette personne dans Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et je le ressusciterai dans les derniers jours, il ne viendra pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. C'est nous! Alors, de quoi avons-nous peur? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle différence cela fait-il de savoir quelle marque vous portez? Vous les appelez ainsi, un ça, comme ça. Nous sommes enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Nous avons été remplis du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Quelle différence cela fait-il de savoir si c'est celui-ci ou celui-là? S'il est presbytérien, méthodiste, baptiste, s'il est rempli du Saint-Esprit, il a la vie, la résurrection en lui. Amen. Oui. Maintenant, au jour de la Pentecôte, Jésus leur a dit dans Luc 24, 49, « Voici, j'envoie une promesse. » Pas, je vais peut-être le faire, je verrai ce que je peux faire à ce sujet. « J'enverrai sur vous la promesse de mon Père, mais montez dans la ville de Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. » Maintenant, s'il avait attendu, par exemple, aux 6 jours, ils disent, « Qu'est-ce qu'on attend? Je crois qu'on devrait l'accepter par la foi. Vous ne pensez pas? » Et si Jacques avait dit, le 9e jour, « Simon, viens ici une minute. » Tu sais, l'autre jour, j'ai eu un sentiment étrange, voyez, et tu sais ce que je crois? Je crois qu'il ne veut pas qu'on attende ici, je crois qu'on l'a déjà reçu. Tu ne penses pas? Poursuivons nos œuvres, continuons notre ministère. Oh, ça ne serait jamais arrivé. Pourquoi? Il savait que le prophète avait dit. Maintenant, écoutez, le prophète a dit, c'est précepte sur précepte sur précepte, règle sur règle sur règle, un peu ici, un peu là, et retenez ce qui est bon, car c'est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, le sabbat. Il savait qu'il devait se passer quelque chose quand cela allait venir. Je répandrai mon esprit au dernier jour, Joël 2, 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront sur mes serviteurs et mes servantes. Je répandrai de mon esprit en ce jour-là. Je montrerai des signes en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et du feu et de la fumée et de la vapeur. Il savait qu'il devait y avoir une expérience qui accompagne cette venue du Saint-Esprit. Ils n'acceptaient pas un son confus, mais quand ils ont senti que quelque chose s'est passé et qu'ils ont vu les preuves bibliques accompagner cela, ils n'étaient pas confus. Ils sont sortis dans la rue. Excusez-moi. Oh là là. Ils étaient certains que c'était le Saint-Esprit. Vous savez à quel point ils étaient certains? Jusqu'à ce que Pierre, ce petit homme sans instruction, sauta sur une souche ou une boîte ou quelque part, il a dit, « Vous, homme de Judée! » La petite poitrine bombée comme un coq furieux. Il a dit, « Vous, homme de Judée, vous qui habitez Jérusalem, j'avais peur de vous il y a un moment, je ne le suis plus maintenant. Que cela soit connu de vous et prêtez l'oreille à mes paroles. Ils ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est ceci. Nous espérons que c'est ça. Nous croyons que c'est ça. » Il a dit, « C'est de cela qu'a parlé le prophète Joël. » Alléluia! Rien de confus dans cela. C'est ce dont a parlé le prophète Joël. Oh là là! Jésus, dans Marc 16, a commissionné son Église. Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile. Ces signes devront peut-être, ils le feront peut-être de temps en temps. Ils accompagneront ceux qui croient. Ces signes accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent ou boivent un breuvage mortel, cela ne fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Pas peut-être, ils guériront. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Laissez-moi résumer en disant ceci, frères et sœurs, pour les prochaines minutes. Je le crois. Je crois que tout le reste, que tout ce qui est contraire à cela n'est pas juste. Je crois que tout ce qui est contre ça tombera. Je crois que peu m'importe combien de communistes ou combien de césistes, de sétistes et l'appartenance ecclésiastique et le romanisme et tous les autres, les américanistes et tout le reste vont tomber. Mais cette parole subsistera éternellement parce que c'est une parole. Et avant que ce soit une parole, ça devait être une pensée. Et une parole est une pensée exprimée. Et Dieu, dans l'éternité, cela vint dans sa pensée. Il a exprimé ses pensées. C'est devenu une parole et la parole devait être rendue manifeste. C'est pourquoi quand il a parlé du Messie, il fallait qu'un Messie vienne. Il a dit qu'il y aurait une église dans les derniers jours, sans tache ni ride sur elle. Il y aura là une église. Alléluia! Il a dit, je crois sa parole, je le crois. Je crois qu'il a promis le Saint-Esprit à tout croyant qui croirait. Je crois que Pierre, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il prêcha ce sermon remarquable, il leur dit à tous de se repentir et d'être baptisés, que ces signes viendraient, et ceci, quiconque invoquerait le nom du Seigneur serait sauvé. Je crois que c'est la vérité. Je me suis tenu sur cela. J'ai vu cela être manifesté. Je sais que je combats pour ça. Je sais que j'essaie de faire un pas. Avant de faire un pas, je dois me détacher de tout enchevêtrement, de tout entrelacement, de toute autre chose pour écarter cela du chemin. Mais chaque fois que vous faites un pas, vous avancez. Amen. Prenez simplement le couteau et coupez ça. Beaucoup d'entre vous se souviennent de Paul Rader, un ami très précieux. J'étais juste un jeune prédicateur, un enfant. J'avais l'habitude d'aller à Fort Wayne, l'écouter au Rediger Tabernacle. Un grand gaillard, il s'était reculé. Il a relevé son pantalon, a levé sa main et a hurlé comme un ours. Et je pensais qu'il allait sauter par-dessus la chair. Quand il a commencé avec un texte, oui, dans la Genèse et terminé dans l'Apocalypse, tout ça d'un bout à l'autre, Paul était vraiment un homme. Un jour, il parlait, il a dit, « J'étais bûcheron dans l'Oregon, d'où il vient. » Il a dit, « Un jour, vous savez, a-t-il dit, « J'étais dans les champs de mission, loin quelque part. » J'oublie maintenant où c'était. Il faisait l'œuvre missionnaire. Il croyait en Dieu, il croyait en la guérison divine. Et Paul a dit, juste ici où se trouve l'Église mondiale aujourd'hui, il a dit, si j'avais livré mon message de grâce au pentecôtiste bouillant, au lieu de faire ce que j'ai fait ici avec vous tous, a dit Paul, et je me suis fait du souci, fini par avoir des millions de dollars de dettes, je me suis fait du souci au point d'avoir un cancer, et je me meurs maintenant. Si j'avais livré mon message de grâce au pentecôtiste bouillant, Dieu m'aurait béni abondamment pour cela. » Exact. Il a dit qu'il était dans la jungle et qu'il a attrapé la fièvre noire ou quelque chose comme cela. C'était terrible. Il était très là, très loin dans la jungle et un fervent croyant dans la guérison divine. Il a dit qu'il était de plus en plus malade. Il a prié et prié. Certains missionnaires ont dit qu'il allait juste prendre un bateau et aller chercher un médecin. Ça leur prendrait des jours pour trouver un médecin. Il m'a dit, ne fais pas ça. Laissez simplement ça de côté. Il a dit, si Dieu ne me guérit pas, alors je rentre à la maison. Il a dit que sa femme est restée dans la chambre avec lui. Il faisait de plus en plus sombre. Il appela sa femme et lui dit, « Chérie, prends ma main. Continue de prier pour moi. » Il commence à faire sombre. Il a dit, je crois que les ombres tombent autour de moi. Il a dit, « Tiens ma main et prie pendant que je m'éteins. » Il s'est préparé pour rencontrer Dieu. Il est en quelque sorte entré en transe. Il a dit qu'il a rêvé qu'il était de retour de nouveau ici dans l'Oregon comme un jeune homme en train de couper du bois. Et le chef du camp a dit, « Paul, gravit sur un flanc de la colline et abat un arbre d'une certaine taille. » Il dit qu'il courut sur la colline avec ses jambes de jeunesse, qu'il abattit l'arbre, qu'il le tailla et qu'il enfonça la hache. Il a dit comment ce pain mou, sa grosse hache pointue à double tranchant, est entré dans ce beau pain. Il a dit qu'il s'en était emparé. Il a dit, « Bien, je veux juste transporter cela en bas de la colline. » Un homme bon et fort, il a dit, « Je m'entraînais à mettre mes genoux ensemble et j'ai soulevé avec mon dos la plus puissante partie de l'homme, ses muscles étaient dans son dos et ses épaules, l'arrière de ses jambes. Il a dit, « Je prendrai un gros tronc d'arbre, je le poserai sur son épaule et je m'en irai. » Mais il a dit, « Ce n'était qu'un tronc d'arbre ordinaire. » Mais il a dit, « Saint, je suis désolé. » Il a dit, « Je ne pouvais tout simplement pas bouger ce tronc d'arbre. Je suis désolé. Je ne pouvais tout simplement pas déplacer ce tronc d'arbre. » Il a dit, « Je me suis démené et j'ai essayé de le ramasser, mais je ne pouvais tout simplement pas y arriver. » Il a dit, « J'avais perdu toute ma force. » Il a dit, « Je ne pouvais tout simplement pas bouger ce tronc d'arbre. » Il a dit, « Enfin, je me suis tellement affaibli que je me suis mis contre l'arbre et j'ai commencé à essuyer la sueur. J'étais tout simplement exténué. » Il a dit, « Au bout d'un moment, j'entendis la voix de mon patron. C'était la voix la plus douce que j'ai jamais entendue. » Il a dit, « Quand je me suis retourné, la voix m'a dit, « Paul. » Et j'ai dit, « Oui, patron. » Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, pourquoi te démènes-tu comme ça? Il a dit, bien, tu n'as qu'à ordonner de l'apporter au camp et je me suis vidé à essayer. Je n'y arrive simplement pas, patron. Il a dit, Paul, tu ne vois pas ce ruisseau d'eau qui coule juste là? Il a dit, oui, il a dit, ce ruisseau descend jusqu'au camp. Pourquoi ne pas le jeter à l'eau, sauter dessus et descendre au camp? Il a dit, je n'y avais pas pensé, jamais pensé. Alors, il a simplement roulé cela dans l'eau, à sauter dessus. Il a dit, « Oh mon Dieu! » Il commence à éclabousser de l'eau, à sauter et à crier à tue-tête, alors qu'il passait par-dessus les vagues et parcourait l'eau, tout en chevauchant sur ce tronc d'arbre, en descendant, descendant. « Je chevauche dessus! Je chevauche dessus! » Il a dit, la première chose qu'il est revenu à lui-même, il s'est retrouvé au beau milieu du plancher, et sa femme criait avec lui. Il criait, « Je chevauche dessus! Je chevauche dessus! Je chevauche dessus! » Mes frères, les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que la Bible a prédit, les jours des gentils sont comptés, encombrés d'horreur. Je reviens à toi, dispersé vers les tiens. Ce message de la parole de Dieu est la vérité. Vivre ou mourir, je chevauche dessus. Je n'argumente pas avec, je n'essaie pas d'argumenter à ce sujet. J'accepte simplement cela et je chevauche dessus. Que les critiques se lèvent, je vais tirer sur tous les fusils. Je reviens au camp un de ces jours, chevauchant sur la parole de Dieu. Amen. Je suis certain d'y arriver. Prions. Pourquoi vous démèneriez-vous avec votre fardeau de péché? Pourquoi voudriez-vous être dans cet état, ne sachant pas où vous vous tenez, courant d'église en église et d'un endroit à l'autre? Pourquoi ne pas simplement l'enfoncer sur la croix ce soir et chevaucher sur la parole? Pourquoi ne prenez-vous pas la promesse de Dieu ce soir et ne sortez-vous pas de ce gâchis en chevauchant pour entrer dans le grand azur ouvert comme cela? Ne vous démenez pas avec ça. Ne vous inquiétez pas avec ça. Croyez-le simplement. Acceptez-le. C'est un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Chevauchez dessus. Si vous êtes malade ce soir, prenez la promesse de Dieu. Je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Comment vais-je me rétablir, frère Branham? Le docteur dit que j'ai des problèmes cardiaques, que j'ai un cancer, j'ai ceci, cela ou tout ce que c'est. Je suis sourd, muet, je suis aveugle. Qu'est-ce que ça change? Acceptez simplement la promesse de Dieu et allez de l'avant. Prenez un très gros bâton, amenons-le ici et écrivons sur le dessus. La prière de la foi a été offerte ce soir. Je vais chevaucher dessus. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. S'il a péché, il lui sera pardonné. Je chevauche dessus. Je le crois. Vous avez mal agi si vous êtes rebelle ce soir. Celui qui cache son péché ne prospérera pas. Mais celui qui confessera son péché obtiendra miséricorde. Pourquoi ne pas le confesser? Que dois-je faire, frère Branham? Confessez-le, puis chevauchez dessus. Dieu l'a dit. Cela vous séparera tout de suite de votre péché. Est-ce qu'il y a une personne ici, ce soir, qui n'a jamais vraiment mis sa confiance en Dieu pour le salut de votre âme, et vous aimeriez qu'on se souvienne de vous dans la prière alors que nous terminons? Lèveriez-vous simplement votre main en disant, « Priez pour moi, frère Branham. Je veux décharger mes soucis. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux décharger. Que Dieu bénisse. Je veux décharger mes soucis. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse là au fond, monsieur. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Très bien. C'est vrai. Que Dieu bénisse. Je veux décharger mes soucis sur lui et simplement chevaucher sur sa promesse maintenant. Je crois qu'il a promis. Celui qui viendra à moi, je ne le rejetterai pas. Ce n'est pas comment je me sens. On a prié pour moi hier soir, Fernand, je ne me sens pas mieux. Cela n'a rien à voir avec cela. Je ne chevauche pas sur mes sentiments. Je chevauche sur sa parole. C'est sa promesse. Frère Branham, j'ai été à l'hôtel 4 ou 5 fois pour essayer de recevoir le Saint-Esprit. Je ne l'ai jamais reçu. Ça ne veut rien dire. Restez simplement sur le tronc d'arbre. Cela vous amènera tout droit au camp. Au camp des premiers-nés, au camp des saints, vous y arriverez. Restez simplement sur votre tronc d'arbre et criez et poussez des cris de louange à Dieu aussi fort que vous le pouvez. C'est la manière de le faire. Pendant que nous avons notre tête inclinée, voulez-vous vraiment chevaucher dessus? Alors, cette petite chose qui vous remue dans votre cœur, voudriez-vous venir ici et vous tenir devant l'autel une minute, vous laisser prier et imposer les mains? Nous serions heureux que vous veniez. Prenons ce petit quelque chose qui enveloppe votre cœur ce soir, qui dit, « Tu sais, tu as tort. » Maintenant, levez votre main. Très bien. Vous avez embarqué sur le tronc d'arbre de sa promesse, l'arbre, la croix qui a été coupée. Mettez vos bras autour de cette croix maintenant. Marchez jusqu'ici et dites, « Maintenant, je vais chevaucher dessus. Maintenant même, je vais y croire. Je vais l'accepter. J'ai la croix. Je ne bougerai jamais. Je vais rester fidèle à cette parole jusqu'à ce qu'elle soit confirmée. Et une fois qu'elle est confirmée, je vais m'emparer d'une autre et commencer à chevaucher directement dessus, voyez, et parole sur parole, pas à pas, vous posséderez tout ce que Dieu vous a promis, car tout est possible à celui qui chevauchera dessus. Chevauchez sa promesse, car elle vous amènera certainement au camp. Cela vous amènera dans la présence de Dieu. Voulez-vous venir maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée? Et je demande à tous ceux qui voudraient se tenir à l'autel, juste un moment pour la prière. Je chevauche dessus, Seigneur. Seigneur, je crois. Tous mes doutes sont engloutis dans la fontaine. Seigneur, je viens, je le crois. J'embarque sur la parole ce soir et je vais y croire de tout mon cœur. Je te crois sur parole. Une précieuse femme se tient ici à l'autel pour confirmer devant Dieu qu'elle était sérieuse. Ne voulez-vous pas venir, vous qui avez la tête baissée, les mains levées et qui vouliez qu'on se souvienne de vous dans la prière? Voulez-vous bien marcher jusqu'ici? Que Dieu vous bénisse. Venez simplement, c'est ça. Venez simplement ici et mettez-vous debout ici. Dites, je vais chevaucher dessus. Dieu, tu as fait la promesse. Quelque chose a frappé mon cœur et je viens tout de suite pour chevaucher sur cela. Et je vais rester juste sur cela jusqu'à ce que ça m'amène directement au camp. Je descends directement au camp des saints du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Venez donc maintenant, vous qui voulez chevaucher dessus. Juste tel que vous êtes, tel que je suis, sans rien à moi. Souvenez-vous, vous dites, est-ce un arbre? Oui, il y a un arbre abattu une fois et il a été replanté au calvaire. Sautez sur cet arbre ce soir avec les promesses de Dieu, la parole qui était suspendue à l'arbre. Je chevauche dessus. Je vais le croire de tout mon cœur. Je veux faire aussi bien que de venir ici et de serrer la main de mes frères. Que Dieu vous bénisse pour votre brave position. Je veux que vous restiez ici un instant pendant que nous prions. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma précieuse sœur. Que Dieu vous bénisse, le Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Guide-moi. Vous guidez à travers la rivière. Rappelez-vous, en tant que serviteur de Christ, je suis responsable de la prédication de la parole. Je suis responsable de mon témoignage. Je me tiendrai ici ce soir. Et un homme de 55 ans ou 53 ans, 54 ans en avril, et me tenir ici et savoir que même cette dernière vision, cela pourrait être mes derniers jours sur Terre, Je pourrais vous quitter dans quelques jours. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Écoutez simplement les bandes et tirez votre propre conclusion. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Me tiendrai-je ici entre deux croyants que ça pourrait être mes derniers messages que je suis en train de prêcher ici à Phoenix et dire quelque chose qui était faux et sachant que ma destination se trouve là-bas et que je serai jugé par mes paroles? Mes frères, laissez-moi vous dire ceci, à vous et à mes sœurs. Vous avez assisté aux réunions. Vous savez quoi, le discernement et les choses, vous avez déjà dit quelque chose au nom du Seigneur, mais que s'est-il passé? Je demanderai à quiconque. Non, monsieur, dans le monde entier et les milliers de visions, il n'y en a jamais eu. Et je vous le dis en vérité, ce soir, le sang de Jésus-Christ est pleinement suffisant pour effacer toute tâche, et ça le serait. Il y a une fontaine pleine de sang, et vous vous tenez devant elle en ce moment, tirez des veines d'Emmanuel, la seule chose sûre qui reste sur terre, où les pécheurs plongés dans ce flot et lavés de tout péché. Je vais maintenant demander à ces ministres et à ses frères, si vous voulez bien venir ici parmi ces gens, qui est, c'est comme ça que vous appelez les ministres à prier avec le peuple, tous les ministres ici présents, donc, qui le veulent voir des âmes sauvées, viennent ici et se tiennent comme un groupe de prière et nous pouvons nous lier ensemble, nous éloigner du reste et de nous séparer. Ce sont des hommes et des femmes qui scellent leur destination ce soir par le sang de Jésus Christ, le prenant à sa parole, chevauchant jusque dans sa présence. Sur sa parole et disant, « Mais voici, Seigneur, je n'ai rien d'autre à offrir que moi-même et prends-moi. Voudriez-vous venir vous tenir avec eux si vous le voulez? Si quelqu'un en a envie, qu'il vienne et se tienne ici. Que Dieu vous bénisse, mes frères. C'est vraiment formidable. J'aime voir des hommes vaillants qui s'intéressent aux âmes. Je suppose, mes frères, c'est très bien. Passez tout autour, c'est bien. Restez là. Faisons maintenant. » Si la pianiste veut bien se mettre à jouer, si elle veut, chantons cet hymne doucement, maintenant, sainement, avec respect. Nous ne nous approchons pas de quelque chose de mythique, nous ne nous approchons pas de quelque chose qui n'est qu'une illusion, mais nous entrons dans la présence de Dieu, le Dieu Jéhovah omnipotent qui a promis. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parlez-lui comme vous le feriez à votre ami. Dites-lui, Seigneur, je suis désolé, j'ai péché. Et nous allons chanter, il y a une fontaine pleine de sang. Tirez des veines d'Emmanuel où les pécheurs plongés dans ce flot et lavés de tout péché. Le brigand mourant vit avec joie cette fontaine en son jour. Et moi qui suis vil comme lui, lavez tous mes péchés. Depuis que par la foi j'ai vu ce flot que tes blessures saignantes alimentent, l'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ce que je meure. Soyez simplement, vraiment humble maintenant. Vous n'êtes rien du tout. Aucun de nous n'est quelque chose. Et maintenant, sincèrement, de tout votre cœur, inclinez votre cœur et votre tête partout dans le bâtiment. Notre Père céleste, je sais que tes paroles sont si vraies. Elles ne peuvent pas faillir. Elles sont la parole de Dieu. Elles sont Dieu. Et tu as dit, « Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. » Et ces hommes et ces femmes convaincus, sachant qu'ils ne sont pas justes, ils se sont avancés ce soir, Seigneur, pour avouer qu'ils ont tort, sachant qu'ils ont été poussés par une impulsion intérieure qui les a fait venir à la fontaine. Et les voici debout, avec la tête et le cœur inclinés, pour boire les eaux de la vie qui a été promise gratuitement. Reçois-la, Père, dans ton royaume. Ils sont à toi. Tu as dit, « Nul ne peut venir à moi sans que mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. » Et cela montre que Dieu a donné ceci au Christ comme une offrande d'amour. Ils se tiennent ici, Seigneur. Aucun homme ne peut les arracher de ma main. Et je prie, Dieu, que tu les sécurises ce soir, alors qu'ils se tiennent ici et que tu leur donnes le baptême du Saint-Esprit pendant qu'ils sont ici à l'autel. Puisse la grande puissance du Christ tellement saturer leur vie maintenant Ils ont fait leur confession, ils se sont avancés. Tu as dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. Nous savons que c'est en marche. Maintenant, Seigneur, scelle-le dans le royaume de la promesse du Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. Répands ton esprit sur eux et remplis-les de l'esprit du Dieu vivant afin qu'ils soient des témoins vivants tous les jours de leur vie du royaume de Dieu. Maintenant que l'audience se lève, tout le monde en prière maintenant. Nous allons prier pour que c'est... Or, chacun de vous qui venez ici ce soir, sentant que vous aviez du péché sur votre cœur, maintenant, il n'y a rien que vous puissiez faire sinon croire cela. Vous acceptez cela par la foi. C'est la foi que vous acceptez. Jésus dit, nul ne peut venir à moi sans que mon Père ne l'attire premièrement. Et tout ce qui vient à moi, il le recevra. Il ne peut rien faire d'autre parce qu'il l'a promis. Voyez? Ne vous reposez pas sur une sensation maintenant. Reposez-vous sur la parole. Voyez, c'est la parole qu'il a dit. Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a, au temps présent, la vie éternelle. Et il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le Saint-Esprit est une expérience d'être rempli et revêtu de la puissance pour le service. Mais confesser et recevoir Christ, c'est avoir la foi et faire votre confession et se sentir libre que Dieu vous a pardonné vos péchés. Sur la base de la parole, il dit, « Nul ne peut venir sans que mon Père ne l'attire premièrement. » Voyez, Dieu vous a attiré premièrement. Et celui qui viendra à moi, je ne le rejetterai pas. Voyez, voyez. Vous l'avez reçu. La seule chose que vous avez, il est mort pour vous. Vos péchés ont été pardonnés il y a 1900 ans. Vous venez maintenant d'accepter ce qu'il a fait pour vous, voyez? Et croyez-vous qu'il est mort pour vos péchés? L'accepteriez-vous comme votre expiation? En d'autres termes, vous l'acceptez comme il a pris vos péchés? Serez-vous heureux et le remerciez-vous pour avoir pris vos péchés? Vous croyez qu'il l'a fait? Alors, levez simplement votre main et dites, « Je crois qu'il prend mon péché. » Amen. Prends mon péché. Très bien. Maintenant, vous êtes maintenant candidat au baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas reçu le baptême chrétien, l'un de ces hommes veillera à ce que vous receviez le baptême chrétien. Mais alors que Pierre prononçait ces paroles avant qu'il soit baptisé, et alors que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Pourquoi? Ils étaient tous dans l'attente. Maintenant, vous êtes dans l'attente. Vous voulez quelque chose qui vous scellera dans le royaume de Dieu, quelque chose qui sera réel pour vous. Ne voulez-vous pas recevoir le Saint-Esprit, chacun d'entre vous? N'en voulez-vous pas? Assurément que vous le voulez. C'est la puissance qui vous garde, voyez? Ils étaient là dans la chambre haute, priant en son nom, et ils furent baptisés du Saint-Esprit et de puissance pour le service. Voyez? Oh, c'est ce que vous voulez maintenant. Et vous pouvez l'avoir tout de suite. C'est pour vous, maintenant même. Maintenant, frères, avancez. Imposons nos mains maintenant sur ces frères et prions pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Avancez tout de suite, mes frères. Avancez tout de suite. Maintenant, toute l'assemblée, levez les mains, tout le monde. Notre Père céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, remplis ici chaque cœur du baptême du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ces gens ici présents qui attendent que la présence et la puissance de Dieu saturent leur vie.